Voilà, bonjour. J'aimerais que nous prenions un passage dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 12. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans son aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je vais m'arrêter là. Je ne suis pas sûr d'arriver au bout, j'ai écrit beaucoup de pages. Excusez-moi à l'avance, mais dans le corpus biblique, Timothée, les épîtres à Timothée sont ce qu'on appelle des épîtres pastorales, avec Tite, donc également, qui est nommé de la même façon. Elles sont pastorales parce qu'elles sont adressées non pas à des églises, mais à des personnes, ou à une personne. L'épître à Timothée, est adressée à Timothée. Mais elle est aussi adressée à vous et à moi. Timothée, c'était un jeune converti, inexpérimenté dans la foi. C'était l'apôtre Paul lui-même qui était impliqué dans sa conversion. Et Timothée, à ce moment-là, était très vraisemblablement pasteur ou dirigeant dans l'église d'Éphèse. Il est né d'une mère juive, d'un père grec, et comme on l'a lu, grand-mère et mère se sont converties et sont devenues chrétiennes. Timothée était donc un enfant, comme il en existe beaucoup de familles chrétiennes. Et en cela, il nous ressemble beaucoup, vous et moi, en tout cas, qui sommes nés dans des familles chrétiennes. Et donc, le texte nous parle énormément. Timothée n'a pas vécu la présence de Jésus-Christ en direct. Il n'a pas, en tout cas, ce qu'on lit, vécu des expériences extatiques comme les a vécues l'apôtre Paul. Il était un jeune homme assez commun à qui l'apôtre Paul avait donné la responsabilité de cette église d'Éphèse. Et cette épître est une sorte de dernier témoignage de Paul, sans doute qu'il allait mourir peu après, et c'est un peu comme un testament qu'il envoie à son protégé, celui qu'il appelle mon enfant. Est-ce que vous entendez Dieu vous appelez mon enfant? Est-ce que vous entendez les gens autour de vous vous encourager de cette façon-là? Mon enfant. J'ai trouvé très émouvant cette façon d'écrire. Timothée n'était pas l'enfant de l'apôtre Paul, mais il était son enfant dans la foi. Donc, Timothée avait de lourdes charges, qui étaient notamment de réfuter les fausses doctrines, de faire taire les faux docteurs, et d'administrer en tout cas cette église et cette communauté où tout apparemment n'était pas rose. Ce qui avait touché l'apôtre Paul chez Timothée, c'était comme il est dit au verset 4, « Je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Une foi sincère, c'est une foi qui n'est pas une foi rêvée. Hein, on peut parfois vivre une foi idéale, c'est-à-dire quelque part jouer à avoir la foi beaucoup plus que ce qui est vrai dans la réalité. C'est très fréquent dans ces endroits en Europe où on n'est pas sous le coup de la persécution. On peut faire son théâtre, on peut jouer sa comédie, il n'y a pas de problème. Les chrétiens sont généreux, les chrétiens sont conciliants. Ils ne vont pas nécessairement vous le faire remarquer que vous êtes à côté de la plaque. Lorsque la persécution arrive, les choses se remettent en ordre. On n'a plus besoin de venir nous dire qu'on est à côté de la plaque. Les choses se mettent automatiquement dans l'ordre. J'ai eu l'occasion de partager hier avec les jeunes qu'en Roumanie, lorsque la persécution est arrivée dans les églises, l'église s'est divisée en deux parties. Ceux qui continuaient à aller à l'église et ceux qui se sont retrouvés en prison. En fait, la vraie église, et tous étaient en prison. Et tous ceux qui jouaient la comédie continuaient à venir dans les salles. C'était ceux qui avaient trahi leurs voisins. Et le pasteur Wombrandt lui-même s'est retrouvé emprisonné, ayant pour capitaine de sa prison celui qui un jour fut son pasteur. N'est-ce pas? Une foi sincère, c'est une foi qui se reconnaît. C'est une foi qui a pour origine des larmes. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Je me souviens de tes larmes. Une foi sincère, ce n'est pas juste une déclaration des lèvres, mais c'est une foi dans laquelle l'individu s'implique, corps et bien. Dans Luc 7, on lit cet épisode avec le centenier n'y allait pas. N'est-ce pas? Jésus a admiré sa foi. Jésus a admiré sa foi. Il a dit dans tout Israël, il n'y a pas une telle foi. Est-ce que Jésus, ce matin, peut admirer notre foi? Est-ce qu'il est présent là et en disant, mais la foi de mes enfants ici est merveilleuse. Si ça n'est pas le cas, son projet pour nous, c'est de faire en sorte que notre foi devienne admirable à ses yeux. Et il est prêt pour cela à nous apprendre. Il est prêt pour cela à nous amener à une position où la foi nous permettra réellement de discerner et de saisir ce qu'on ne peut pas voir. C'est ça, n'est-ce pas, la définition de la foi. C'est discerner et saisir ce qu'on ne peut pas voir. Si on va dans Deutéronome au chapitre 8, on lit ce que Dieu a fait au sujet de la manne pour travailler la foi du peuple d'Israël. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu a fait souffrir Israël. C'est marqué tel quel, n'est-ce pas? Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Dieu a fait souffrir Israël pour qu'il apprenne. Et on sait qu'il n'a rien appris. Il est dit que Jésus a lui-même appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes. On lit ça dans Hébreux 5. Le Seigneur vivait véritablement la parole de Dieu. Et c'est ce qui lui a permis de jeûner pendant 40 jours dans le désert lui aussi. Et si nous allons dans Matthieu 4, au verset 4, alors que Jésus est tenté, en tout cas est approché par le tentateur, on va verset 3, le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains, que ces pierres, deviennent des pains. Et Jésus lui répondit, il est écrit dans Deutéronome 8, verset 3. C'est pas marqué, mais évidemment, c'est ce qu'il cite. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur vivait véritablement la parole de Dieu. Dieu était sa manne quotidienne. Il venait de passer par, il venait de recevoir de Dieu l'Esprit. Il venait de commencer son ministère. Et il était dans le désert, tenté par le malin. Et Satan lui dit, prends ces pierres et fais-en du pain. Tu sais, rappelle-toi le truc de la manne que tu as fait dans le désert. Eh bien, c'est le moment. Refais-le là, maintenant. N'est-ce pas ? Satan n'a pas juste tenté au hasard en disant, oh, il doit avoir faim, allez, on va lui demander de faire un miracle pour le piéger. Évidemment, l'idée, c'était de le piéger. Mais Jésus, Dieu, avait déjà accompli ce miracle dans le passé. Le peuple d'Israël n'avait rien appris. Dieu avait fait souffrir Israël pour qu'il apprenne. Jésus était dans les mêmes conditions. Et Satan lui dit, allez, viens, allez, refais le truc de la manne, parce qu'en faisant ça, tu accomplis la parole de Dieu. Tu n'es pas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est logique dans ta situation de faire ainsi. Dans Jean 4, 34, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ça, c'était la nourriture de Jésus-Christ. C'était la nourriture de notre Seigneur. Le pain quotidien de Jésus, c'était d'accomplir la volonté du Père. Frères et sœurs, est-ce que nous-mêmes, nous avons appris? Personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais souffert. Est-ce que les choses par lesquelles Dieu nous fait passer, est-ce que les difficultés dans lesquelles nous sommes parfois, nous apprennent? Est-ce que nous retenons la leçon que le Saint-Esprit nous donne? Est-ce que je retiens la leçon que le Seigneur me donne? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus compare l'accomplissement de la volonté de Dieu avec de la nourriture. Pour lui, la vie spirituelle et la vie physique, c'était presque pareil, d'une certaine manière. Pour lui, manger et respirer Dieu, c'est ça qui le nourrissait vraiment. Et c'est pour ça qu'il a tenu 40 jours dans le désert sans manger. C'est qu'il était entièrement consacré à son Dieu, à l'écoute et au service. Il avait Dieu en lui. Il me dirait, oui, mais il était le fils de Dieu. Certes, mais il est venu comme un homme. Et c'est parce que Jésus était ce qu'il était qu'il a pu dire « Je suis le pain de vie ». C'est pas parce qu'il avait mangé beaucoup de pain. C'est parce qu'il était vraiment une nourriture pour l'homme. Je suis le pain de vie. C'est-à-dire que je suis ce que je consomme. Nous sommes les uns et les autres ce que nous consommons. N'est-ce pas? Lorsque vous mangez beaucoup de sucre, eh bien vous devenez du sucre. C'est pas vrai. Dernièrement, j'étais faire mes prises de sang. Eh bien, il y avait trop de sucre. Voilà. J'avais beau dire au médecin, j'ai pas mangé beaucoup de sucre. Il est allé à la ligne triglycérides, il a regardé, il m'a dit, c'est pas vrai. Vous avez mangé beaucoup de sucre. Alors voilà, j'ai mangé beaucoup de sucre. En fait, je mange beaucoup de fruits, voilà. Et c'est ce sucre-là qui s'est vu dans mes triglycérides. On est ce qu'on mange. Si vous mangez beaucoup de gras, vous allez à la ligne gras et vous verrez, tu es gras. Et vous pouvez vous cacher, vous pouvez rentrer le ventre, vous pouvez mettre des corsets, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes dénoncé. Vous regardez chaque ligne. Si vous buvez de l'alcool, c'est pareil. Vous pourrez dire, oh, ça fait bien longtemps, vous savez, quand j'étais éducateur, et que des gens me disaient, ah, si tu savais, moi je fais des... je touche plus d'alcool. Et certains avaient des prises de sang obligatoires à faire, il suffisait de regarder le bilan et... on savait que c'était pas vrai. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Dans le désert, Dieu voulait que la foi du peuple d'Israël soit renforcée. N'est-ce pas? Ce qui était miraculeux, c'était pas la manne en elle-même. C'était le fait qu'elle vienne tous les jours. C'était ça le miracle. C'était qu'elle vienne. Et au bout d'un moment, ils râlaient parce que c'était toujours la même chose. Mais ils auraient râlé encore beaucoup plus si Dieu avait arrêté la manne. N'est-ce pas? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous trouvons que les journées sont trop rasoirs et qu'il ne se passe rien dans nos vies? Mais c'est parce qu'on ne sait pas voir, frères et sœurs. C'est parce qu'on ne voit pas les bienfaits de Dieu. C'est extraordinaire d'être vivant tous les jours, tous les matins, et je parle d'être vivant spirituellement, et de pouvoir continuer avec le Seigneur. C'est un miracle quotidien. C'est pas parce que vous êtes particulièrement qualifié pour cela que cela marche. C'est parce que Dieu vous a nourri de son pain. Il voulait que le peuple sache qu'il est capable de pourvoir jour après jour. Et un nom de Dieu, c'est Jéhovah Jiré, ou Yahvé Jiré, Jéhovah n'étant pas réellement biblique. Et c'est cette vérité-là que Satan a voulu instrumentaliser lorsqu'il a eu cette rencontre avec Jésus, lorsqu'il l'a tenté. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. N'est-ce pas? C'est bien là le grand drame de l'inspiration démoniaque. C'est que Satan, contrairement à ce que l'on croit, est très proche de la parole de Dieu. On imagine que Satan est loin de ces choses. C'est faux. Satan est très proche de la parole de Dieu. On pourrait même croire qu'il s'en nourrit, parce qu'il la cite par cœur. N'est-ce pas? L'esprit démoniaque demande un miracle. Prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Fais un miracle. Seigneur Jésus, il ne se passe rien dans ma vie. Fais un miracle. Seigneur Jésus, je commence à douter que tu es le Fils de Dieu. Fais un miracle pour me le prouver encore une fois. Seigneur Jésus, je ne me rappelle plus. Fais un miracle. Fais un miracle. Fais un miracle. L'esprit démoniaque est hypocrite, en plus d'être menteur. Parce que lors de la multiplication des pains, à la fin, les Juifs viennent le voir. Et lui disent, quel miracle fais-tu? Il venait de nourrir 5000 personnes avec du... je sais plus combien, 5 pains, 2 poissons ou... 5 pains, 2 poissons, merci. Des pains d'orge. Et tout de suite après, fais un miracle. L'esprit démoniaque a foi dans le pain. L'esprit démoniaque a foi dans le pain du miracle. Mais il n'a pas foi dans le Fils de Dieu. Il n'a pas foi en Dieu lui-même. Et nous, nous avons foi en quoi? Est-ce que nous avons foi dans la technique ou est-ce que nous avons foi dans l'ingénieur? Est-ce que nous avons foi dans les choses qui sont faites par Dieu? Ou est-ce que nous avons foi dans celui qui les fait? C'est pas pareil. Frères et sœurs, de quoi sommes-nous nourris? Et surtout, que nourrissons-nous à l'intérieur de nous-mêmes? Dans Jean 4, 32, c'est après l'épisode avec la femme au puits, je crois. Les disciples vont voir Jésus, ils disent... Maître, il faut que tu manges. N'est-ce pas? Décidément, il y a tout le monde qui veut faire manger Jésus. Il faut que tu manges. Et Jésus répond, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que nous avons lu dans Deutéronome 8, 3? Reprenons-le. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça vous semble important d'entendre cela? Ça vous semble important d'entendre que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas... une amélioration des qualités. Ce n'est pas un modèle qui a été affiné au travers du temps et qui nous est appliqué aujourd'hui. C'est une création quotidienne de la part de Dieu. Le miracle est là. C'est que la nourriture que Dieu nous donne, ce n'est pas une nourriture rébarbative. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Ah oui, mais hier, c'était la portion d'hier. Aujourd'hui, c'est la portion d'aujourd'hui. Et elle est autre que celle d'hier. Vous comprenez? Dieu nous amène dans la vie éternelle. Dieu nous amène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Si l'on retourne dans 1 Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Le don de Dieu que tu as reçu n'évoque absolument rien pour une nature irrégénérée. Quand vous dites à des gens de l'extérieur, moi j'ai reçu un don de Dieu, vous dites, ah, encore un qui sort de Bayeul. Ça n'évoque rien. On vous prend pour un fou. Alors on ne le dit pas, comme ça. Mais quand on dit j'ai rencontré Dieu, c'est pareil. Ah bon? Le don de Dieu n'évoque rien pour les incroyants. Un don, c'est un cadeau. Un don, c'est quelque chose qu'on donne. Et quand on aime la personne à qui on le donne, en général, on s'applique à lui donner quelque chose qu'on sait qu'elle ne possède pas déjà. Sauf si c'est des lingots d'or. Si vous en avez, d'ailleurs, vous pouvez... Parce que ça s'empile facilement. Bien sûr, on plaisante. Mais le don, lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, et qu'on aime la personne... On essaie de connaître les choses qu'elle a, qu'elle n'a pas, et on va lui donner le présent. Et alors on sait que, oh, pour moi, mais j'en rêvais. J'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais posséder ça. Et tu me l'as donné. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas. C'est un don. Voilà un don. C'est difficile pour les maris de trouver quelque chose pour l'épouse après plusieurs années. Mais il faut faire l'effort. Le don de Dieu. Vous ne connaissez pas? C'est l'expression de sa propre vie déposée en nous. C'est merveilleux. Seigneur, tu me donnes ça à moi. Mais je ne peux pas payer ça. C'est un don. C'est un don. Je te le donne. Tu n'as pas besoin de payer. C'est vrai. C'est pour moi. Est-ce que vous êtes heureux du don que Dieu vous a donné? Est-ce que ça vous fait frémir parfois? Timothée, le don de Dieu. Le don de Dieu, ce n'est pas la timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Et frères et sœurs, le don de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. Ah mais, moi je ne suis pas timide. Moi, comment il dit Alex, je rentre dedans. Ah moi j'ai peur de rien. Ah mais moi j'ai peur. Moi je suis timide. Moi, je suis vraiment timide, en réalité. Je suis un grand timide, c'était presque maladif lorsque j'étais enfant. Mais il ne s'agit pas d'une qualité naturelle. Il s'agit du don de Dieu qui fait que le plus timide va découvrir qu'il est capable de témoigner à son voisin, à son proche. Que le plus expansif va trouver que son témoignage est réduit à la portion que Dieu lui a donnée, et non pas à ses qualités naturelles. C'est cela, le don de Dieu. Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité. N'aie donc point honte du témoignage. Timothée, ranime le don qui est en toi. Ne le laisse pas périr. Ranime-le. On ranime quoi ? On ranime un feu. On souffle dessus. Qui a fait des feux de camp ? Moi, j'en ai fait beaucoup lorsque j'étais flambeau. Alors, on faisait le feu et on espérait que le matin, il reste des braises. Et celui qui était de petit déjeuner, il était là, il se mettait à genoux par terre et il soufflait. Et on venait avec de l'herbe, il restait une toute petite braise, parfois presque rien. Mais en mettant de l'herbe et ensuite des brindilles plus grosses et ensuite une petite boule de résine, eh bien on arrivait à rallumer ce feu. Et d'une minuscule braise et d'un tas de cendres, on retrouvait un foyer qui pouvait être énorme. Et qui arrivait à réchauffer tout le monde le matin lorsqu'il faisait froid sur les hauts plateaux du Vercors. Je me rappelle ma jeunesse. N'est-ce pas ? Ranime le don qui est en toi. Frères et sœurs, le don de Dieu. C'est un feu qui est en nous, qui quotidiennement se renouvelle, qu'on ne peut pas domestiquer, qu'on ne peut pas apprivoiser, qui nous nourrit jour après jour de façon nouvelle, et qui nous donne le courage de témoigner de la parole de Dieu. Qui pourvoit à tous nos besoins. Je vais devoir m'arrêter, je suis désolé. Je vais lire juste le dernier verset encore. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Tu peux dire que tu me connais. Tu peux le dire. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres. Timothée, ce ne sont pas les choses que tu fais, qu'elles soient bien faites ou moins bien faites, mais selon son propre dessein, son propre projet. Vous pouvez traduire dessein par projet. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, pas ce matin, avant les temps éternels, ce jour béni où l'agneau de Dieu a été sacrifié, avant la fondation du monde, avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant. Mais le projet de Dieu remonte à l'origine. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Aie courage, Timothée. Aie courage, frère. Aie courage, sœur. Parce que Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est aussi un message qu'on peut adresser à nos frères et sœurs qui souffrent et qui risquent leur vie physique, autant que pour nous qui ne souffrons pas encore de cette façon-là. Voilà, je vais m'arrêter sur cette conclusion écourtée. Mais que nous puissions réaliser que le don qui est en nous, c'est une œuvre de Dieu renouvelée jour après jour. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est domestiqué en nous. Bien au contraire, il est vivant. Et nous avons à veiller à ce qu'il soit gardé, que la flamme soit gardée ardente jour après jour. Et c'est Dieu qui le fait en nous. C'est grâce de Dieu en nous. Seigneur notre Dieu, je veux nous remettre entre tes mains à chacun. Parce que dans tes mains, Seigneur, nous sommes au meilleur endroit. Parce qu'en toi, ô Dieu, nous recevons directement du Père. Et Seigneur, nous voulons confier nos vies, te demander, Seigneur, que nous puissions apprendre des leçons que tu nous donnes. Que nous ne soyons pas sourds à ces choses. Et Seigneur, au jour de la persécution, nous ne voulons pas, Seigneur, nous retrouver dans le mauvais camp. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses continuer à être fier de nous. Que tu puisses, ô Dieu, être fier des larmes que nous versons. Que tu puisses, ô Dieu, continuer à nous appeler avec tendresse, mon enfant. Que tu puisses, Seigneur, avoir des hommes et des femmes, non pas timides, mais courageux, pour témoigner du nom de Jésus-Christ et de ceux qu'il aime. Seigneur, glorifie ton nom dans cette assemblée. Glorifie ton nom dans chacune des vies ici. Seigneur, et que tu puisses être béni par la vie de ton peuple. Dans le nom précieux de Jésus.